et à toutes. C'est la première fois que je vois l'église, ce local, aussi rempli. Même lors de mon ministère en 2004, 2005, 2006, l'église n'a jamais été aussi remplie. Mais il faut dire que c'est comme deux églises. Hein. Tout le monde va bien ? Pas trop chaud ? Ça va. En tout cas, la porte est ouverte là. Donc, s'il y a trop de vent, on va légèrement fermer. S'il n'y a pas assez de vent, on va ouvrir. Donc, sentez-vous à l'aise. Et moi, pour me mettre à l'aise, vous permettez que je lève ma veste ? Merci. Voilà. C'est vrai que c'est une joie pour nous de pouvoir ensemble méditer la parole du Seigneur. Et ce matin, je vous propose une réflexion sur le chemin d'Emmaüs. Ça vous dit quelque chose, ça ? Le chemin d'Emmaüs. Pardon ? Oui. Effectivement, dans la Bible, il est question du chemin de Damas, mais il est aussi question du chemin d'Emmaüs. Et notre texte se trouve dans l'Évangile selon Luc, le chapitre 24. Donc c'est le dernier chapitre du livre. Parmi nous, nous sommes entre frères et sœurs en Christ. Qui est notre doyen ou qui est notre doyenne ce matin? Il y a toujours un doyen, une doyenne, parce qu'il y a plusieurs personnes. Qui est notre doyen? J'entends 72. Combien ? Doyen. Alors, s'il vous plaît, à notre doyen, on va lui donner un micro, il va prier pour nous. Pour la parole du Seigneur, s'il vous plaît.
Père éternel, mon Dieu, mon roi, mon tout puissant, je te dis merci pour nous avoir venus ce matin dans ton église pour écouter ta belle parole. Et nous avons cette parole. Ta parole, c'est la nourriture la meilleure du monde. Alors, papa, je te demande de bénir cette église, de bénir tous les frères ce matin qui sont arrivés d'Evry, les enfants de la couronne d'Evry. Alors, Père, tu es le Dieu puissant. Je te remets en tes mains, tous les frères et sœurs, et bénis cette église, dans le nom puissant de Jésus. Amen.
Amen. Donc, le texte s'affiche, hein? Et voici, ce même jour, deux disciples allaient à un village nommé Emmaüs, éloigné de Jérusalem de 60 stades, 11 kilomètres à peu près. Et ils s'entretenaient de tout ce qui s'était passé. Pendant qu'ils parlaient et discutaient, Jésus s'approcha et fit route avec eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. Il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant ?» Et ils arrêtèrent l'air attristé. L'un d'eux, nommé Cléopas, lui répondit, « Es-tu le seul qui, séjournant à Jérusalem, ne sache pas ce qui s'est arrivé ces jours-ci ? Quoi ?» leur dit-il. Et ils lui répondirent, « Ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël. Mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont passées. Il est vrai que quelques femmes d'entre nous ont fort étonnés, s'étant rendues de grand matin au sépulcre et n'ayant pas trouvé son corps, elles sont venues dire que des anges leur sont apparus et ont annoncé qu'il est vivant. Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre et ils ont trouvé les choses comme les femmes l'avaient dit. Mais lui, ils ne l'ont point vu. Alors Jésus leur dit, « Ô homme sans intelligence et dont le cœur est long à croire tout ce qu'ont dit les prophètes, ne fallait-il pas que le Christ souffre ces choses et qu'il entre dans sa gloire ?» Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Lorsqu'ils furent près du village où ils allaient, il parut vouloir aller plus loin. Mais ils le pressèrent en disant, « Reste avec nous, car le soir approche, le jour est sur son déclin. » Et il entra pour rester avec eux. Pendant qu'il était là, à table avec eux, il prit le pain, et après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna. Alors leurs yeux s'ouvrirent, et ils le reconnurent, mais il disparut de devant eux. Et se dirent l'un à l'autre, « Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures ?» Se levant à l'heure même, ils retournèrent à Jérusalem et ils trouvèrent les 11 et ceux qui étaient avec eux assemblés et disant, « Le Seigneur est réellement ressuscité, il est apparu à Simon. » Et ils racontèrent ce qui leur était arrivé en chemin et comment ils l'avaient reconnu au moment où il rompit le pain. Amen. J'ose imaginer que c'est un texte que nous connaissons bien, que nous avons souvent lu. Pour ma part, c'est un passage qui est l'un des plus beaux, mais aussi l'un des plus mystérieux du Nouveau Testament, en tout cas des évangiles. Il est beau parce que la fin est très édifiante, mais il est aussi énigmatique à cause de la profondeur spirituelle de son message. Et nous allons voir que l'enseignement spirituel de Jésus-Christ est très riche. Le contexte. L'histoire se passe 3 jours après la crucifixion du Seigneur Jésus-Christ. 2 hommes rentrent chez eux en direction d'Emmaüs et discutent sur le chemin de tout ce qui s'est passé. L'air très attristé. Un inconnu les accoste et chemine avec eux en leur expliquant le plan du salut. Au moment de leur repas, ils reconnurent que cet inconnu était Jésus, mais il disparaît à leurs yeux. Ce texte, mes amis, soulève 2 grandes questions fondamentales dont les réponses vont nous aider à comprendre le pourquoi de ce passage. Sur le chemin d'Emmaüs, c'est l'histoire de la patience de Dieu, de la pédagogie du Seigneur dans les cœurs découragés. 2 grandes questions, mes amis. Pourquoi Jésus a-t-il choisi de passer au moins 5 heures avec ces 2 hommes sur le chemin d'Emmaüs ? Comme si Jésus n'avait pas d'autre chose de plus importante à faire. Première question. 2e question, mes amis. Pourquoi les yeux de ces 2 hommes étaient empêchés de le reconnaître? Pour bien comprendre ce passage, il faut savoir qui étaient ces 2 hommes. C'est vrai que la Bible ne dit pas grand-chose, sinon que l'un s'appelait Cléopas. Mais l'apôtre Luc a laissé assez d'éléments dans ce passage pour nous aider à mieux comprendre qui étaient ces 2 hommes. D'abord, au verset 13, Manu, au verset 13, il est marqué 2 disciples. 2 disciples. Donc, nous savons que c'était 2 disciples. Verset 19. Et ils lui répondirent ce qui était arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tous les hommes. Et comment, etc. Donc, déjà, 2 disciples qui avaient une certaine connaissance de qui était Jésus, puisqu'ils parlent de Jésus comme étant un grand prophète, puissant en parole devant Dieu et devant le peuple. Deux disciples qui sachent pas mal de choses sur Jésus. Ensuite, verset 21. Voici, nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici le troisième jour que ces choses se sont arrivées. Verset 21, voilà. Troisième jour. Donc, des disciples qui ont été jusqu'au bout. Ils n'étaient pas de ceux qui, dès que Jésus a été crucifié, l'ont abandonné. Parce que, qui suivait Jésus-Christ pendant son ministère? Il y avait trois catégories de personnes. Il y avait les apôtres, qui étaient proches de Jésus. Il y avait les disciples. Et il y avait la foule. Qui était proche de Jésus? Il y avait les apôtres et les disciples. Parce que dans la Bible, le disciple, c'est celui qui a choisi de suivre Jésus jusqu'au bout. Jusqu'au bout, mes amis. Donc, on peut dire, on poursuit. Il est vrai, verset 22, il est vrai que quelques femmes d'entre nous, donc, nous voyons que ces disciples étaient vraiment, ils faisaient vraiment partie du cercle rapproché de Jésus, des intimes. Ceux qui ont non seulement assisté à la crucifixion, ils ont aussi assisté à la veillée mortuaire. Ils ont attendu les trois jours. Ils étaient aussi présents lorsque les femmes ont annoncé la résurrection de Jésus. Et ils étaient aussi présents lorsque Pierre et Jean ont été au tombeau. Puisqu'il est marqué, verset 24, « Quelques-uns de ceux qui étaient avec nous sont allés au sépulcre. » Donc, la Bible donne assez d'éléments pour savoir, assez d'éléments pour que nous puissions savoir qui étaient ces deux hommes. Et on peut dire que c'était des hommes très proches de Jésus, capables de rester jusqu'au bout, j'ai marqué, à la dernière minute du troisième jour. Contrairement à ceux qui, dès que Jésus commençait à avoir des paroles dures, s'en allaient. Hein. On connaît tous ce passage dans Jean chapitre 6, verset 66, hein, où ils dirent à Jésus, « Seigneur, tes paroles sont dures. Qui peut te suivre ?» Et la Bible nous dit que ces hommes-là sont partis. Donc, mes amis, il y a disciples et disciples. Que Dieu nous garde d'être des disciples qui lui tournent le dos. Bon, ça, c'était dans l'introduction. La grande question, mes amis, c'est pourquoi Jésus s'est-il arrêté à la hauteur de ses deux disciples? Pourquoi? Par ce geste de Jésus-Christ, nous voyons toute la sollicitude, l'amour et la grâce du Seigneur envers son peuple. Comme le bon berger va chercher les brebis perdues. Où vont les disciples? La Bible nous dit qu'ils vont vers Emmaüs. Mais si on réfléchit bien, qu'importe l'endroit où ils vont, que ce soit à Emmaüs ou à Bethléem ou ce qu'on veut, pour moi, la chose la plus importante, ce n'est pas où est-ce qu'ils vont, mais qu'est-ce qu'ils quittent. Qu'est-ce qu'ils quittent? Et la Bible nous dit qu'ils sont en train de quitter Jérusalem. Ils sont en train de s'éloigner des apôtres. Ils sont en train de prendre de la distance par rapport au foyer spirituel que le Christ a mis en place. Ils sont en train de tourner le dos à l'unité spirituelle que forment les disciples. Ils sont en train de tourner le dos et d'abandonner le lieu où ils doivent recevoir la promesse de l'Esprit. Ils sont en train de s'éloigner du foyer missionnaire, parce que la Bible nous dit que tout va démarrer de Jérusalem. Vous serez mes témoins à compter de Jérusalem. Et là, ces disciples sont en train de s'éloigner de ce foyer spirituel. Le chemin d'Emmaüs symbolise le chemin du découragement, de la tristesse, de l'amertume, du trou noir où nous pouvons tomber. Le fond du puits. Oui, le chemin d'Emmaüs symbolise le fond du puits. Mais chose extraordinaire, mes amis, c'est que c'est sur ce chemin-là que Jésus-Christ vient les rencontrer. Amen. C'est dans leur désarroi, c'est dans leur tristesse, leur découragement, c'est dans leur passage à vide qu'ils vont recevoir la plus belle leçon spirituelle, qu'ils vont recevoir la plus belle étude biblique par le meilleur enseignant, Jésus-Christ lui-même. C'est lorsque tout va mal, mes amis. C'est lorsqu'on ne voit plus le bout du tunnel. C'est lorsque nous passons quelquefois dans des moments difficiles, douloureux, que le Seigneur nous fait grâce de venir cheminer avec nous. Et c'est pourquoi, en tant que disciples du Seigneur, n'hésitons pas à crier au Seigneur lorsque nous sommes dans la détresse. Parce que c'est dans la détresse, mes amis, que Dieu nous fait la grâce de sa présence. Jésus savait qu'en s'éloignant de Jérusalem, il s'éloignerait de la foi. Jésus savait qu'en s'éloignant de Jérusalem, il y avait le danger de faiblir spirituellement. Il vient cheminer à leur côté, mes amis. Il vient à leur côté pour les saigner. Mes amis, n'oublions jamais que l'enseignement de la parole de Dieu nous donne de l'espoir. L'étude de l'Écriture sainte nous redonne de l'espérance. Étudier les saintes Écritures nous donne la joie et la paix du cœur. Passer du temps à méditer la parole de Dieu nous donne la victoire sur notre découragement. Et nous disons tous amen. Amen. Mais c'est vrai, mes amis, ces deux disciples étaient tristes, découragés, abattus, sans espérance. Nous espérions que ce serait lui qui délivrait Israël. Ils ont tout perdu, mes amis. Mais c'est dans leur découragement que Christ est venu les enseigner. L'enseignement de la parole de Dieu nous fait du bien. Jésus savait aussi pourquoi ils étaient tristes. Et Jésus pose une question qui, à mon sens, est importante. Le verset 17, il leur dit, « De quoi vous entretenez-vous en marchant ?» Quel est le sujet de votre discussion? De quoi vous entretenez-vous en marchant pour que vous soyez tout triste? Qu'est-ce qui alimente votre réflexion? Qu'est-ce qui nourrit votre âme? Voilà la question que le Seigneur leur pose. Mes amis, mais dites-moi, qu'est-ce qui nourrit votre âme? Qu'est-ce qui nourrit votre être intérieur? Qu'est-ce qui vous nourrit? D'où venait leur tristesse, mes amis? Leur tristesse venait du fait que leur espérance était mise sur Jésus-Christ, l'homme qu'ils ont vu crucifié. Et l'ayant vu crucifié, ils n'avaient plus d'espérance. D'où leur tristesse. La Bible dit qu'ils étaient extrêmement tristes. Au lieu de se réjouir, ils étaient tristes. Parce que, pour nous chrétiens, c'est quoi la crucifixion? C'est la mort du Seigneur, mais c'est aussi la résurrection. Pour nous chrétiens, la crucifixion accompagne la résurrection. Et pour nous, la résurrection, c'est la victoire du Seigneur. La victoire sur le péché, mais aussi sur la mort. Et la victoire du Seigneur, c'est aussi notre victoire à nous. Amen. Ce que Christ a triomphé à la croix, c'est pour moi, c'est pour chacun d'entre nous. Donc le peuple doit se réjouir. Nous devons nous réjouir de savoir que Christ est mort et ressuscité. Mais leur tristesse à ces deux disciples vient du fait qu'ils avaient perdu toute espérance. Leur espérance était basée sur ce que leurs yeux voyaient, et non pas sur l'enseignement de la parole de Dieu. S'ils avaient compris l'Écriture, ils seraient dans la joie et l'allégresse. Mais est-ce que moi, aujourd'hui, est-ce que je peux dire, dans le fond de mon cœur, que j'ai compris l'Écriture? Est-ce que j'ai la joie et l'allégresse dans mon cœur, mes amis? Est-ce que je l'ai, cette joie, qui vient de l'enseignement expliqué de l'Écriture? Par cette question, de quoi vous entretenez-vous en marchant? Jésus cherche à mettre l'accent sur ceux qui nourrissaient leur âme. Et leur âme était nourrie par le découragement. Leur âme était nourrie par la tristesse. Leur âme était nourrie par des événements qu'ils ne comprenaient pas. Qu'est-ce qui nourrit mon âme, mes amis? Qu'est-ce qui nourrit mon âme aujourd'hui? Qu'est-ce qui vient nourrir mon être intérieur? De quoi chaque jour je nourris mon âme? Est-ce que je nourris mon âme des événements que je ne comprends pas? Ou est-ce que je nourris mon âme de la parole de Dieu? De l'enseignement de la parole de Dieu? Jésus met l'accent sur ça, mes amis. Et en tant que chrétien, c'est important que nous nourrissions notre âme chaque jour de la parole du Seigneur. Non seulement Jésus met l'accent sur ce que nourrit leur âme, mais il me semble que Jésus veut aussi les amener à une nouvelle dimension spirituelle de leur relation avec Dieu. Pourquoi les yeux des deux hommes étaient retenus pour le reconnaître? Retenus. Moi, pendant des années, je pense que peut-être vous aussi, hein, mais pendant des années, j'ai compris. Manus, est-ce que tu peux marquer le verset? Le verset. Verset 16, voilà. Merci. C'est important ce verset-là. Voilà. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître ou étaient retenus. Moi, pendant des années, mes amis, j'ai compris, je croyais que leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître à cause de leur tristesse, à cause de leur découragement. Ils étaient tellement abattus que, quelle que soit la personne qui était à leur côté, ils ne pourraient pas le reconnaître. Mais c'est vrai quelque part. C'est vrai que quelque part, lorsque nous passons par des moments difficiles, par des moments de grande tristesse, des moments d'abattement, je dirais même par des moments de doute, nous avons du mal à voir le Seigneur. Oui, il faut le reconnaître, hein, que des fois le doute, le découragement, la lassitude nous empêche de voir correctement. Et moi, pendant des années, je croyais que c'était ça qui les empêchait, ce qui serait légitime. Lorsque ça va mal, on voit mal. Lorsque ça va mal, on voit mal. Lorsque ça va mal, on veut voir personne. Est-ce que c'est vrai? On se ferme. On répond pas au téléphone. Parce que ça va mal, mes amis. Et lorsque ça va mal, on ne voit pas. Donc, légitimement, on peut penser que parce qu'ils étaient mal, ils ne voyaient pas le Seigneur. Lorsque ça va mal, des fois on dit: Seigneur, où es-tu? Qu'est-ce que tu fais, Seigneur? Je crois en toi, mais où est-ce que tu es? Je ne te vois pas. Parce qu'on va mal, mes amis. Mais ce qu'il y a d'extraordinaire dans ce passage, c'est que l'apôtre Luc a utilisé un terme grec qui est très fort. Le verbe, vous allez le retenir, hein. Kratéo, qui veut dire empêché par quelqu'un. Littéralement, mes amis, c'est Jésus-Christ qui a empêché aux yeux des disciples de le reconnaître. C'est Jésus-Christ qui volontairement a empêché aux yeux des disciples de le reconnaître. pourrait dire, ben ça c'est le monde à l'envers. Normalement, lorsque tout va mal, Seigneur, il faut que tu te manifestes. Il faut qu'on te voie. Mais la chose extraordinaire, c'est que Dieu a fermé les yeux. Mais pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi Dieu a-t-il fermé les yeux de ces deux apôtres ? Pourquoi ? Parce que Dieu veut les amener à une dimension spirituelle que jamais ils avaient connue jusqu'à maintenant. Dieu veut leur montrer que même si ils sont dans l'abattement, même si tout va mal, même s'ils sont au fond du puits, le Seigneur est présent. Dieu nous a fait la promesse qu'il sera avec nous chaque jour jusqu'à la fin du monde. Même si ça va mal, mes amis, n'oublions jamais que Dieu a promis d'être sa présence. Première chose, mes amis. Que Dieu n'est jamais loin de son peuple. Que Dieu ne se cache pas. Dieu n'est pas loin. Il est près. Il est près de tous ceux qui ont fait alliance avec lui. Et c'est vrai. C'est vrai que la présence du Seigneur, mes amis, nous fortifie. Sa présence, lorsque nous reconnaissons sa présence, nous sommes fortifiés intérieurement. Nous sommes édifiés. Nous sommes encouragés. Nous allons plus loin parce qu'il est là. Parce qu'il est là. On ressent sa présence, non pas avec les yeux charnels, mais avec les yeux de la foi. Christ voulait montrer à ses disciples que, à partir de maintenant, ce qui importe, c'est la marche par la foi, mes amis. Volontairement, il a fermé les yeux, bien sûr pour les enseigner, on verra ça tout à l'heure, mais aussi pour leur montrer qu'à partir de maintenant, ce qui importe, c'est la marche par la foi. Parce que n'oublions pas que le Seigneur Jésus-Christ peut en près partir auprès de son Père, qu'il ne serait plus présent sur terre, mais qu'il enverrait son esprit. Donc c'est important pour nous, peuple de Dieu, d'apprendre à marcher par la foi. Christ veut enseigner à son peuple la marche par la foi. La marche par la foi doit être notre seule exigence. Tout ce que Dieu attend de son peuple, c'est une marche dans la confiance à sa parole et à sa personne. Marcher par la foi doit être notre mot d'ordre à tous, selon l'enseignement de l'Écriture. Nos cœurs ne doivent plus se tourner vers ceux que les yeux voient, mais nous devons regarder et rechercher les choses d'en haut, là où Christ est assis à la droite du Père. Le disciple n'est plus focalisé sur ce qui est éphémère, mais sur ce qui est éternel, mes amis. C'est quoi marcher par la foi ? Marcher par la foi, c'est marcher en s'appuyant sur les promesses du Seigneur. Accepter et croire que Dieu a le contrôle sur vie, même dans les moindres détails. Et c'est pas évident, mes amis, lorsque nous recherchons un travail, par exemple, et que Dieu, dans sa grâce, se manifeste à la dernière minute, hein, n'est-ce pas, 20h47. Mais c'est pas évident de croire que Dieu va se manifester à la dernière minute. Comme lorsqu'on cherche un logement, on tourne à droite, à gauche, on ne voit rien, et Dieu, à la dernière minute, dans sa grâce infinie, manifeste. Vous savez, la marche par la foi, c'est de croire que Dieu a le contrôle sur toute ma vie, même sur les choses que j'ai du mal à comprendre. Mais la foi, c'est pas faire confiance. C'est ça la foi. Donc c'est faire confiance au Seigneur. C'est aussi croire et faire confiance que Dieu a un plan formidable pour ma vie. Et que ce plan, il va le réaliser, quoi qu'il arrive. Même si je ne comprends pas tout. C'est ça la marche par la foi, mes amis. Mais c'est aussi accepter que Dieu m'a choisi. Est-ce que nous sommes conscients que Dieu nous a choisis. Lorsque dans la rue, on se fait insulter, on se fait agresser, lorsque au travail, on se fait calomnier, lorsque même dans l'église, on n'est pas toujours compris, on reçoit la médisance. Est-ce que dans tout cela, on croit vraiment que Dieu nous a acceptés? Oui, monsieur. Même dans la calomnie, même dans la médisance, même dans tout ceci, nous devons croire que Dieu nous a acceptés, que nous sommes enfants de Dieu. Et si nous sommes enfants de Dieu, mes amis, nous devons croire que Dieu non seulement nous a choisis, mais qu'il attend de nous que nous puissions le servir jusqu'au bout. Dieu nous a choisis pour que nous puissions le servir jusqu'au bout. C'est ça, mes amis, aussi la marche par la foi. Marcher en servant le Seigneur jusqu'au bout. Même si ce n'est pas toujours facile, mais jusqu'au bout, comme de vrais disciples. Jusqu'au bout, mes amis. Encore faut-il, mes amis, que pour marcher par la foi, il faut que notre cœur soit touché. Manu, s'il te plaît, mets-nous le verset 32. Et ils se dirent l'un à l'autre, notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait en chemin et nous expliquait les Écritures? Notre cœur, mes amis. Marcher par la foi, c'est vouloir que notre cœur soit touché par l'enseignement de la parole de Dieu. Que notre cœur soit modelé par l'accent du Saint-Esprit. Que notre cœur soit façonné par la personne de Jésus-Christ. Que notre cœur doit être éduqué par Dieu. Que notre cœur doit être transformé par la révélation divine. Mes amis, si mon cœur n'est pas touché, rien ne se fera. Rien ne se passera, mes amis. Je peux avoir une grosse tête remplie de belles choses, mais si mon cœur n'est pas touché, ça ne changera rien. C'est le cœur qui doit être touché. Notre cœur ne brûlait-il pas au-dedans de nous lorsqu'il nous parlait et nous expliquait les Écritures? Sur le chemin d'Emmaüs, Jésus n'a jamais reproché à ses deux disciples d'être tristes ni d'être abattus. La seule chose qu'il les a reprochés avec beaucoup d'amour, c'est leur incrédulité. Manu, mets-nous s'il te plaît le verset 25. Alors Jésus leur dit, ô homme sans intelligence et dont le cœur est lent à croire. La seule chose que Dieu reproche et a toujours reproché à son peuple, c'est l'incrédulité. Un cœur qui est lent à croire. Parce que lorsque le cœur est lent à croire, Dieu ne peut pas manifester sa puissance. Lorsque un cœur est lent à croire, nous ne pouvons pas voir la gloire de Dieu. Nous ne pouvons pas marcher de victoire en victoire. Parce que c'est le cœur qui doit être touché, mes amis. Un homme de Dieu a dit, le cœur du problème, c'est le problème du cœur. Et c'est vrai. Si mon cœur n'est pas touché, mes amis, Dieu ne peut pas agir puissamment. J'aime cet enseignement sur le chemin d'Emmaüs. Parce que c'est sur le chemin du découragement, de l'abattement, de l'amertume, du découragement, que Dieu vient nous expliquer sa parole. Amen. J'ai pas beaucoup entendu amen, hein. Amen. Amen. Amen, oui. Parce que, mes amis, nous avons la grâce extraordinaire d'avoir un Dieu qui vient nous chercher même dans notre abattement, même dans notre désarroi. Lorsque tout va mal, Dieu vient nous chercher. Il n'y a pas d'autre Dieu que celui-là. Dieu, ce n'est pas le Dieu où tout va bien. Notre Dieu, c'est le Père Céleste qui vient nous chercher lorsque ça va mal. Lorsque nous sommes au fond du puits, mes amis. lorsque notre lit de douleur, il vient nous chercher dans sa grâce. Amen. Pour conclure, je dirais simplement que le chemin d'Emmaüs nous enseigne que notre Dieu est toujours présent à nos côtés, même si nous ne le voyons pas. Que Dieu nous appelle à marcher par la foi. Dieu veut que notre âme soit nourrie par sa parole, mes amis. Dieu vient nous enseigner, même là où nous avons atteint le fond du puits, il vient nous enseigner dans sa grâce. Dieu ne désire pas nous perdre parce qu'il nous aime. Bon, j'ai entendu un seul amen, c'est incroyable ça.
Amen.
Amen. Dieu ne désire pas nous perdre, mes amis.
Amen.
Amen. Vous savez, si je sors là, il m'arrive quelque chose, je suis entre les mains du Seigneur.
Amen.
Dieu ne désire pas nous perdre. Christ a donné sa vie parce que Dieu nous aime. Amen.
Amen.
Alors mes amis, que Dieu nous aide dans sa grâce à tenir ferme jusqu'au bout, mes amis. Amen.
Amen.